Moi, l'approche de la forêt, je l'ai abordée au début, c'était à travers des gens. À travers des gens qui l'aimaient, qui aimaient y travailler. Donc j'y suis allée avec eux. Mais pour moi, il n'y a pas que la forêt. La forêt, c'est un ensemble. Moi, j'aime bien le terme, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait apporté le terme de paysan forestier. Moi, j'ai toujours dans cette idée qu'on peut vivre d'un pays tout en le respectant et en le préservant et en ayant des rapports sociaux beaucoup plus tranquilles et égalitaires, qu'on se sente concernés tous par notre environnement immédiat. Moi, j'ai plus cette approche-là.
C'est vrai que comment faire pour survivre, pour vivre de manière correcte, parce qu'on a des prix quand même très élevés dans nos prestations. Comment vivre sans travailler que pour les bourgeois. C'est le même débat que par rapport au bio, où la nourriture bio, c'est très bien, c'est nécessaire pour sauver la planète certainement, mais si c'est industriel, c'est pas intéressant. Si c'est que les riches qui peuvent se permettre, c'est pas intéressant. Il y a tout un débat philosophique aussi qui se raccroche à cette manière de travailler ou de vivre. De toute façon, la forêt, c'est clair et net, il y a une ambiance, il y a une vie qui se mêle à ça, qui est unique, hein, qui n'est pas parfois difficile à expliquer, mais c'est un ressenti absolument incroyable. Quoi. On se retrouve complètement à poil vis-à-vis de la nature, hein, il n'y a pas d'autre mot. Quoi.
Vous voyez qu'on peut remonter du bois avec le cheval. On n'est pas obligé de travailler sur du plat ou en descente. Donc ça, peut-être Florent il peut nous expliquer comment on remonte le bois, parce que la pente elle est pas mal quand même.
Il y a plusieurs solutions, on met plus de chevaux devant, mais quand on remonte des bois dans les talus, en général on utilise les poulies. On démultiplie les charges, là on a fait un système de poulies avec un cheval qui descend ou deux et qui remonte les bois jusqu'à l'entrée du talus là. On les reprend un petit coup et après on les reprenait avec une paire de chevaux et après on groupait les bois, groupés ou pas selon la grosseur des bois pour les monter sur les places de dépôt. Une paire on aurait pu mettre plus, ça avait été des gros, hein, parce que là ça remonte beaucoup. Hein. Si c'est dès que c'est des bois un peu gros, attention ça tank. Hein.
Entre cimes et racines, une série d'émissions réalisées par Radio Zinzine en partenariat avec le Réseau pour les alternatives forestières, chez les paysans forestiers de Trénas. Nous nous trouvons en Ardèche, près du hameau de Trénas, sur la commune de Chaniac, qui est située entre la vallée de l'Hérieux et le mont Mézinc. Une quarantaine de personnes réunies pour la quatrième rencontre du Réseau pour les alternatives forestières, à l'invitation du collectif autogéré installé depuis les années 70 à la ferme de Trénas, collectif qui fait partie du mouvement international de coopératives Longomaille. Comme à chaque rencontre du Réseau, nous sommes sortis découvrir différentes zones de forêt, aussi bien à la ferme même que chez des propriétaires aux alentours. Zones dans lesquelles l'équipe de Trénas travaille depuis quelque temps. Le réseau créé en 2008 réunit bûcherons, forestiers, débardeurs à cheval, élagueurs, menuisiers, charpentiers, propriétaires ou simplement amoureux des forêts. Ils ont été très impressionnés par le travail de cette équipe qui, petit à petit, met au point une approche de la gestion forestière qui contraste fortement à celle pratiquée par la grande majorité des professionnels de la région. Lolo, Emmanuel, Sabine, Paco et leurs amis cherchent également à maîtriser la totalité de la filière bois. Depuis environ 2 ans, ils mènent de plus en plus de chantiers collectifs avec des amis comme Florent Dalloz, débardeur à cheval, Gérald Houlan, élagueur et Pascal Menon, bûcheron, qui étaient tous présents à cette rencontre. Dans cette émission, nous écouterons des entretiens avec Lolo et Emmanuel, ainsi que quelques brefs extraits des échanges et explications qui ont eu lieu dans les forêts visitées. Dans ce premier extrait enregistré en forêt, vous avez entendu Florent Dalloz et Gaëtan Dubus, ingénieur forestier indépendant dans l'Aude et initiateur du Réseau pour les alternatives forestières. Pour commencer, l'ONU nous présente l'histoire du collectif de Trenas et la région dans laquelle il se situe.
Nos parents sont installés par ici dans les années 68-69. Bon, il y a eu toujours une réflexion un peu de bois, parce que c'est une région froide, donc il y a eu l'intérêt dans le bois de chauffage, simplement, sans grande connaissance. C'était des citadins qui faisaient un retour à la terre. Et nous, un peu plus grands, donc dans les années 89, surtout avec la rencontre de Langomail, où on s'est associés, on a décidé de travailler la forêt de manière différente, et surtout par la rencontre de Pascal dans ces années-là, les années 90, où Pascal Menon donc, nous a montré une manière différente d'accéder dans le regard, dans la pratique, dans la forêt, et surtout dans la récolte de bois, en empêchant systématiquement les coupes rases et cette manière de travailler. Donc on a développé un travail d'abord que sur le bois de chauffage, pour essayer de ne pas abîmer les quelques réserves de bois qu'on avait ici. Et très rapidement, il y a eu une envie de scier un peu de bois, d'en transformer un peu, ne serait-ce par besoin technique sur la ferme, de quelques outils, quelques ameublements pour les moutons, pour les vaches et tout. Et donc de fil en aiguille, on a commencé à transformer quelques grumes, mais on le faisait de manière tellement succincte qu'on ne pouvait pas parler de filière bois, ni même, c'était vraiment de la récolte de bois paysanne, quoi.
Ici, c'est quoi comme forêt, en gros? Je veux dire, il y a beaucoup d'espèces différentes?
Alors, sur tout le lieu qu'on travaille, il y a une cinquantaine d'espèces recensées, différentes, étalées sur au moins 300 hectares. Donc, ça va d'arbres qui ont été apportés artificiellement, tels que le Douglas, l'Abies grandis, ou l'Épicéa, pour en citer quelques-uns. Et il y a aussi une forêt naturelle de hêtres, de vieilles hêtraies, qui a été parfois préservés, parfois surexploités par les paysans. Et on a beaucoup de pins sylvestres aussi. Donc c'est le châtaignier qui est bien implanté. Nos récoltes se basent surtout vis-à-vis du Douglas, du pin sylvestre et du hêtre. Et le châtaignier qui est utilisé en piqué, qui est utilisé parfois en petite menuiserie ou en petite charpente quand les sections sont correctes ou le bois n'est pas trop abîmé. Mais donc c'est une forêt qui empiète sur un territoire qui était agricole. Donc on va retrouver des arbres forestiers avec des arbres fruitiers mélangés. On va trouver des pommiers en pleine forêt, on a vu ça en se promenant. On a un mélange qui est vraiment, vraiment intéressant et qu'on essaye de par nos manières de travailler, on essaye de préserver ce côté-là, ce côté un peu de forêt où il y a autre chose qu'une récolte que de bois. Il y a aussi du fruitier au milieu, donc il y a un potentiel très intéressant, quoi.
Quand on balade ici aussi, qu'il y a pas mal de terrasses qui sont maintenant enfin boisées, et que voilà, l'Ardèche, c'était un des départements en France le plus peuplé, on dit. Il y avait énormément de population, Trenas, quoi, je sais pas, 200 habitants, quelque chose d'incroyable. Est-ce que donc c'était beaucoup moins forêt avant, et est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une culture de travail forestier ici dans la population, ou c'était plutôt une paysannerie ici, non?
Ouais, ici, c'était que basé sur l'élevage et l'agriculture. Le peu de bois qu'il y avait, c'était des coins complètement inaccessibles où les gens prenaient le bois pour se chauffer, mais il devait certainement y avoir que des coupes dans les haies. C'est une région quand même de bocage aussi, il y a beaucoup de haies entre les prairies et les champs. Donc les gens devaient vraiment récolter le maximum de bois, certainement de petite taille en plus. Donc il n'y avait pas du tout de culture forestière. Il y a eu un peu d'exploitation pour le pin sylvestre, pour faire des bois de mine. Exporter certainement. Il n'y a aucune connaissance, il n'y a aucune base au départ de foresterie. On ne voit aucune parcelle gérée de manière jardinée ni quoi que ce soit. C'est vraiment éventuellement une récolte basée sur une coupe rase, mais il n'y a pas du tout d'imaginaire sur la forêt, quoi.
Et depuis quand, on peut dire, la forêt a pris la place qu'elle a maintenant?
Déjà, la Première Guerre mondiale, il y a déjà eu une grosse exode. Mais surtout la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a eu vraiment un gros coup. Malgré qu'on soit une région où il y a une petite industrie, il y a peu de chômage ici, donc les gens se sont installés dans la ville la plus proche, un peu plus grande, qui est Le Cheylard, environ 4000 habitants. Il y a quelques usines, donc les gens se sont cantonnés là, gardaient une petite attache à la terre, tout le monde a un petit jardin, quelques animaux parfois. Voilà. Mais alors par contre, sur les campagnes hautes, comme ici où on est à 1000 mètres d'altitude, c'était désert très très rapidement, dû à, je sais pas, peut-être un boom économique qui était possible dans la vallée, peut-être la dureté de vie ici. En tout cas, les gens sont partis et ne sont pas revenus. Les quelques gens qui ont pu s'installer dans les années 70 ont eu effectivement des hameaux, des villages entiers complètement vides, des terres complètement abandonnées, qui étaient vouées à ou bien des plantations subventionnées, ou bien à l'abandon, donc aux broussailles, aux genêts, bon bref, aussi aux problèmes d'incendie que ça pouvait poser. Donc c'est vrai que la désertification rurale, elle a eu son côté positif dans le sens où elle a apporté la forêt sur les parcelles abandonnées, quoi. Et ces forêts-là, qui sont, bon, c'est un pays très fertile, on est en région volcanique, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de nutriments dans le sol, et cette forêt-là a pris le dessus rapidement, est devenue une forêt quand même belle et même productive, si on veut parler d'économie forestière. Donc il y a un potentiel vraiment valable.
Comment on peut décrire la gestion forestière autour de vous, quoi, dans la vallée, comment ça se passe en général?
Alors, ici, il n'y a pas beaucoup de critères forestiers, donc les gens... souvent des gens qui n'habitent plus sur place ont des parcelles forestières dont ils ont hérité. Le remembrement dans les années 80 a permis à certains propriétaires d'avoir des grandes parcelles forestières en bloc, qui est donc facile d'exploitation, rentable, d'après leurs critères. Et, par contre, d'autres ont été complètement spoliés et ont reçu des carrés de choux inintéressants. Donc il y a quelques gros propriétaires qui ont voulu mettre un peu le tempo l'exploitation forestière, qui a fait... ces exploitations actuelles qu'on propose, c'est-à-dire ou bien on fait rien, ou bien on rase tout. Il n'y a pas du tout d'alternative au milieu, et on est les seuls à proposer autre chose pour le moment. Ça fait ses petits doucement, mais là, c'est une approche assez violente du bois. Pour eux, le bois n'est qu'une récolte, une épargne. On appelle ça, nous on appelle une épargne. Les plantations qui ont été faites dans les années 50, aujourd'hui, sont une ressource d'épargne pour quelqu'un qui veut refaire une toiture, qui veut... on rase quelques hectares et on a quand même un peu de pognon. Bon, le problème, c'est que c'est un terrain très accidenté. Alors, on fait des grosses pistes forestières, la pelleteuse, on fait des dégâts considérables. Bon, malgré tout, la nature arrive toujours à reprendre ses droits, mais on a du mal à implanter notre technique de travail.
C'est la futaie régulière. C'est la plantation au départ. C'est qu'on est parti sur une fausse piste. Alors qu'on aurait à nouveau favorisé de la futaie jardinée avec différentes essences, différents étages, différents âges. Et après, on repart sur une sélection naturelle entre les arbres. On n'est plus du tout dans le même contexte et on sort des arbres de qualité. Voilà, donc on est parti. Mais il faut en tenir compte puisque ça existe.
Il faut absolument, parce qu'on n'aura plus cette parcelle-là ce matin et cet après-midi. Il faut qu'on aborde 5 minutes avant de partir ce problème-là. Comment on fait? C'est pour ça que je trouve intéressant d'être ici. Comment on fait pour transformer ce truc-là en futaie jardinée, hein? On est tous d'accord que c'est le but. On part de là. Je vous dis, c'est une surface énorme en France, ce genre de situation. On est d'accord qu'on ne veut pas aboutir à une coupe rase et repartir sur une monoculture. Moi, je vous dis que si on fait une coupe rase, il est très difficile de repartir sur autre chose que de la monoculture. Hein? Donc, on veut éviter la coupe rase, on veut aller vers la futaie jardinée. Comment on fait ici?
Nous, quand on avance dans ce genre de travail, sur nos terrains, nous, on sait qu'il y aura une pérennité dans le temps. Personne n'y en a foutu la merde, peut-être. On s'amuse comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on voit un feuillu, dès qu'on voit une essence autre que celle qui est implantée, on la favorise. De n'importe quelle manière, on la favorise. Même si c'est un truc qui fait un mètre de haut, qu'il faut enlever un énorme à côté, on le fait, quoi. On a des forêts de Douglas où on a des arbres de 90 ans environ, où on a fait ça depuis quelques années. On a un résultat qui commence à être intéressant en diversité, quoi. Et par exemple, sur la tempête, il y a eu zéro dégâts. On pense qu'on s'était pas complètement gouré.
Pour revenir sur Trenas, Pascal Menon arrive, vous commencez à travailler un peu autrement dans la forêt, et puis voilà un début de filière finalement.
Voilà, alors quand Pascal il nous montre quelques techniques de travail dans les bois, Pascal a fait un petit film qui explique un peu ces techniques. Ici on a des bois bien plus gros, donc la technique était un peu différente, mais dans l'ensemble... c'est une question d'observation et de récolte assez succincte dans les bois, malgré tout, qui peut donner des bonnes récoltes. Hein. On fait quand même du bois, quoi. Je veux dire, quand on fait des coupes, on sort pas mal de bois, en essayant d'avoir un impact minimum sur la parcelle. Donc, de fil en aiguille, on a des arbres quand même assez gros, qui sont sciables, qui ne sont pas que pour le chauffage. Et bon, parfois, il faut enlever un merisier. Donc là, nous, on travaille avec quelques scieries locales. On amène nos bois à la scierie à l'époque. Ils nous les scient, on les ramène, on les stocke, et puis personne de nous sait faire de menuiserie, ni rien, donc de fil en aiguille, on veut transformer ce bois, et le temps passe, et un jour, avec la chute du mur, on a fait beaucoup de rencontres dans les pays de l'Est, avec l'Angomaille, et un jour, on a croisé un Ukrainien qui était prêt à venir voir ce qu'on faisait en France, et c'était dans les années 94, je crois, 93, 94, et il a voulu venir en France, d'accord, mais pour avoir une activité, faire quelque chose avec nous, partager un moment. Et son métier était menuisier. Donc on a décidé de monter une petite menuiserie sur Trenas. Et il est venu, et pendant un mois ou deux, il nous a initié à la menuiserie. Donc il a fait environ 1500 ou 2000 km pour nous apprendre à assembler des bouts de bois. Et ça a été le début vraiment de la filière. Ça nous a complètement ouvert l'esprit aussi vis-à-vis de ce travail-là. Et aussi d'anticiper, donc de préparer des bois dont on ne saura pas le déboucher. Mais bon, on a scié des sections qu'on a séchées, rangées comme il faut, en attente. D'un jour peut-être qu'on en aura besoin. Et maintenant, on arrive à peu près à tourner sur des stocks qu'on produit ou que parfois on rachète, qui viennent de nos forêts ou des forêts qu'on exploite autour. Mais on a eu cette démarche de travail grâce à la rencontre. Pour la forêt, c'est la rencontre avec Pascal qui nous motive, qui nous éclaire dans la manière de travailler. Pour la menuiserie, c'est Pietro en Ukraine qui nous donne l'impulsion. Donc là, on fait travail que des bois locaux, donc châtaignier, le pin, le douglas, tous les bois. Et donc l'idée au départ, c'était de valoriser les bois qu'on exploitait, qui étaient sciables, et petit à petit les transformer. De fil en aiguille, on a fait une menuiserie quand même bien foutue, quoi. Voilà. Après, il y a Paco qui s'est rajouté à l'affaire, qui lui avait fait une formation en menuiserie en Suisse, donc il a un très bon niveau de menuiserie. Donc il m'a remplacé, et puis il m'a viré, quoi. Donc moi, je m'occupe moins de la menuiserie et beaucoup plus de tout ce qui est sillage et forêt, quoi. Voilà. Parce que malgré tout, on s'est un peu réparti les rôles dans certaines activités. Et donc nous, dans le bois, ce qu'on appelle bois de qualité, c'est pas forcément un bois qui a zéro défaut. Si le mec, il veut du plastique, puis il va ailleurs, quoi. Mais par contre, s'il est d'accord d'accepter une qualité de bois qui correspond aussi au pays où on habite, eh ben on travaille des bois tels qu'ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités, quoi. Voilà. Sinon, on travaille avec un autre scieur qui est à Lamastre, qui est aussi un bon gars. Il travaille bien sur le châtaignier, il est très performant. Certainement le meilleur de Rhône-Alpes. Et il cherche des bois de partout, il connaît beaucoup de paysans. C'est un peu le vieux système, quoi. Et donc, il récolte des bois super intéressants. Donc pour développer ce travail-là, menuiserie ou travail forestier, on a fait appel aux premières scieries mobiles à l'époque, qui commençaient dans les années 90, qui venaient, bon, on faisait quelques sillages avec eux. Et de fil en aiguille, il nous est venu l'opportunité d'installer une scie chez nous. On a pu vraiment valoriser encore mieux les ressources forestières qu'on avait, c'est-à-dire, comme on n'avait pas d'argent à débourser pour scier même des sections complètement ridicules, ça permettait de vraiment valoriser des bois que même avec la scie mobile on n'osait pas faire puisqu'il y avait l'économie qui rentrait en jeu. Donc là maintenant on peut s'amuser à faire même des débits avec des bois qu'on n'aurait certainement pas utilisé autrement parce qu'on a notre propre outil. Et bon, moi j'ai fait une formation après de scieur pour pouvoir manipuler cet outil, maîtriser un peu l'affûtage et tout, quoi. Donc, de fil en aiguille, on a développé toute cette filière. On a commencé à faire pas mal de menuiserie, de la charpente, parce qu'évidemment, il y a parfois des sections de bois suffisamment grosses pour faire des charpentes, qu'on a fait d'abord pour nous, pour l'engomaille, à l'intérieur. De fil en aiguille, des gens nous ont proposé de faire une béagerie par-ci, un truc par-là. Et donc là, il y a eu encore un volet en plus rajouté, c'est celui de la charpente, où on s'est mis à produire des charpentes pour des gens qui sont en général des amis, mais où il y a un rapport aussi financier dans ce travail-là, quoi. Et donc la charpente, qui a une plus-value très importante la transformation du bois, nous a permis de travailler en forêt, même à perte parfois, parce qu'on avait derrière nous on a déjà la ferme qui nous permet de survivre aisément en tant que collectif. Mais en plus de ça, avec la charpente et la menuiserie, c'est vrai que le problème financier ne se posait plus d'aller travailler des parcelles complètement inintéressantes économiquement. Donc ça a été une démarche super importante, super intéressante, parce qu'on a fini par maîtriser la filière bois complètement, de la coupe à la transformation finale. Et en plus de ça, on a commencé à avoir des implications avec les propriétaires locaux forestiers. Ils nous ont demandé de gérer leur terrain. Ça, c'était vraiment un point très très important où on a été impliqué dans dans un milieu qu'on connaissait simplement en rapport de travail, mais donc le milieu forestier, le vrai milieu forestier où les gens nous demandent une gestion de massif, quoi, qui n'est pas évidente, puisque nous sommes dans une idée de travail à très très long terme, parfois imaginaire, parce qu'on ne sait pas vraiment l'expliquer, c'est du ressenti quand on est dans les bois. Donc là, on a pu partager cette connaissance, ces envies, avec des gens qui n'étaient pas du tout branchés dans la même longueur d'onde que nous, qui avaient des parcelles de forêt, des fois par hasard, des fois parce qu'ils avaient acheté ça exprès, peut-être dans un but lucratif au départ. En nous croisant, ça leur a donné envie de gérer ces parcelles différemment. Le proprio, c'est un gars vraiment local, un paysan local qui a... un jour en achetant des terres, qui a eu un morceau de forêt avec et qui a vraiment aimé sa parcelle. On va descendre un peu plus bas, on va voir l'endroit où il a vraiment focalisé dessus. Et il a rencontré des exploitants, il nous avait vu bosser un peu nous, on lui avait fait sa maison en charpente. Et il a, à un moment donné, il nous a branchés parce qu'il pensait qu'il y avait que nous qui pourrions bosser ses bois sans faire des conneries, quoi. Voilà. Et bon, jusqu'à présent, il est vraiment satisfait, quoi. Et c'est vrai qu'on part vraiment pas du tout dans une logique de profit avec lui. Après, le bois qu'on prend, on lui paye. De toute façon, on a estimé un prix autour de 90€ le mètre cube, que le bois soit bon ou mauvais. Et en général, c'est remboursé par du travail, c'est parfois en argent, ça dépend. C'est un accord comme ça, pour au cas où, si un jour on s'engueule, il n'y a pas de dette, on est rigolo entre nous. Voilà. Le bois, là, du bois comme ça, il est payé 20-30€ sur pied maximum, quoi. Voilà. Donc nous, on le paye à un gros prix parce que... C'est un choix de fonction, quoi.
Lui, il a quand même un revenu relativement correct, quoi.
Il n'a pas de revenu, sauf quand on fait un chantier pour lui, quand on lui transforme du bois ou quoi. Il paye pas, mais on ne peut pas dire que ce soit un revenu. Voilà.
Il a un capital de 40 000 euros l'hectare, hein, c'est quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte?
D'ailleurs,
vous achetez. Bon, sauf qu'ici, les conditions d'exploitation sont très difficiles, donc ce n'est pas une parcelle qui se vendra à 40 000 euros l'hectare. Hein. Mais si celui qui parvient à mettre le bois à bord de route, imaginons le scénario atroce, il achète le bois sur pied, voilà une coupe rase.
C'était ce qui était prévu au départ. La première proposition des exploitants, tout à fait rationnelle, c'est une coupe rase, parce que voilà, c'est pas des tapettes, quoi. Donc, c'était fou, quoi. Et tous les exploitants du pays avaient déjà repéré tous ces gros. Et ils savaient, quoi, et c'était une horreur. Et donc, ils montaient là-haut et ils traversaient la route. Tout droit, ils font à peu près 6 km avant qu'il y ait un gros dépôt. Et ils posent le bois qui est repris en gommier. Et donc après, ils refont la route, ils s'en foutent. De toute façon, l'investissement, il est ridicule par rapport à l'exploitation. Tu dis exploitation difficile, mais en coupe rase, ici, c'est pas un problème, ce genre d'exploitation. Ils le font, ils avancent, ils font 100 cubes par jour. Mais bon, c'est immonde derrière, quoi. Ils sont fous, quoi. Ça, c'est le premier volet très intéressant où on a dû faire un effort de communication dans notre travail. C'est pas négligeable, ça semble un peu ridicule, mais en fait, c'est expliquer ce qu'on fait, c'est le plus difficile. Le milieu du bois, c'est souvent le concret qui attire les gens. Quand on fait le travail et ils voient le résultat, ils voient qu'on arrive à en vivre en plus, là, les gens s'y intéressent. Si c'est juste un conflit, on va dire, théorique sur un côté écologique ou pas des choses, ou économique ou pas, il y a souvent conflit dans le débat et on arrive très peu à avancer. Par contre, quand on se retrouve sur le terrain et que, tout en faisant le même travail que les autres forestiers, les autres bûcherons ou les autres débardeurs, on propose, je ne veux pas exagérer, on propose un peu plus de finesse, ça n'a pas choqué les gens et doucement, on est arrivé à rentrer dans ce cercle d'humains. Parce que c'est, j'allais dire humanité, mais c'est pas vraiment, c'est brutal. Le monde forestier est quand même brutal. C'est on bouscule les choses très violemment. C'est un rapport un peu spécial. Alors bon, on a réussi à rentrer dans ce milieu doucement. Et donc on travaille parfois pour des exploitants locaux quand il y a des parcelles intéressantes à gérer ou quand il y a des petits massacres à faire. Parce qu'on n'est pas complètement nickel sur tout ce qu'on fait. Hein. Des fois il y a des contraintes, il y a des erreurs, bon bref, c'est la vie, quoi. Mais sur le travail forestier, il y a eu un autre pas encore. On a toujours travaillé avec des chevaux sur Trenas, On faisait un peu de bois, un peu de binage de patates, un peu de bon. C'était souvent expérimental, souvent sans savoir vraiment pourquoi le faire et tout. Mais bon, on était toujours attiré par le cheval. On a toujours eu des chevaux de trait qui travaillaient. Et un jour, on a eu l'occasion de faire une formation en débardage à cheval. Donc il y a eu une proposition d'accueil de tous les gens qui étaient liés au débardage en Ardèche à cheval. Donc on y allait faire ce stage. Et en fait, c'est avéré que nous, on y allait en plus en disant qu'on n'était pas débardeurs à cheval, mais qu'on bossait avec le cheval et qu'on était intéressés à découvrir ce métier. Et en fait, dans tout le groupe qui était venu faire la formation, la rencontre de débardeurs à cheval, finalement, on était les seuls, et puis un copain aussi qui est maraîcher, à vraiment vivre avec le cheval. Et du coup, le formateur de cette rencontre, bon, il y a eu une grosse amitié qui s'est nouée. Et il s'avère que ce gars est un très très bon débardeur à cheval, très bon meneur de chevaux et très bon pédagogue. Et il nous a complètement motivés à foncer dans ce sens dans le travail avec les chevaux. Donc on a modifié nos harnachements, on a modifié les manières de mener les chevaux, on a appris beaucoup de choses avec lui et on a commencé à faire des chantiers, même économiques, avec les chevaux. Donc des débardages où on était rémunéré, même parfois simplement au mètre cube. Bon, là, on est rentré dans un milieu qui est vraiment super intéressant, parce qu'on a pu même sortir des bois gros, de gros volumes, qu'avec les chevaux.
C'est une branche qui pousse contre le tronc, le moteur, c'est comme une baïonnette, quoi.
Alors après, effectivement, on utilise le nombre de chevaux qu'il faut par rapport aux charges qui sont derrière. La paire, elle est souvent l'attelage de base. On peut travailler avec un cheval, on travaille souvent à deux, mais on travaille aussi à trois et à quatre. C'est compliqué, oui et non, parce que le coût de transport est quand même moins élevé que les engins pour déplacer des machines. On est quand même, on peut être deux jours ici et deux jours un chantier un peu plus loin. Voilà. Après, c'est clair que quand on fait des chantiers professionnels, moi, quand je me déplace, j'aime bien me déplacer pour une semaine de travaux. Je ne vais pas me déplacer quand je ne me déplace pas pour deux jours de travaux. Parce que j'amortis pas mon déplacement. Quoi. Je vais pas. Voilà.
Il ne faut pas mélanger. Hein. La batteuse, c'est pour l'abattage. Donc ici, l'alternative au débardage à cheval, ça aurait été le treuil. D'accord ? Parce que le porteur ici, bon, c'est un peu casse-gueule. Quoi. Donc on se serait mis là-haut, on aurait un peu bloqué le passage, ou en tout cas juste en dessous du talus, et on aurait treuillé tous les bois vers le haut. Et treuiller, ça veut dire aussi forcément plus de dégâts, de plaies, de... Bon,
et en plus, beaucoup moins de... Beaucoup plus de peine pour les bûcherons. Parce que là, le treuil, il n'allait pas aller forcément désencrouer tous les bois. Donc les bûcherons allaient beaucoup batailler pour faire tomber les bois. Et les bois allaient tomber un peu à droite et à gauche. Donc il allait avoir des dégâts créés par le câble. Et en plus, par les bois qui ne sont pas tombés dans le bon sens. Là-dedans, le résultat avec le tracteur, il est certainement assez catastrophique.
Donc là, il y a un bouleversement dans notre manière d'avancer. On était assez mécanisé. Donc on avait des débardeurs, des tracteurs donc articulés, des porteurs forestiers, des choses comme ça, de petite taille, mais quand même, c'était quand même du matos, quoi. Donc on a un camion grue et tout. Et là, ça nous a bouleversé, ça nous a remis en question notre manière de fonctionner. Et depuis donc quelques années, ça fait 3 ans qu'on fait ça. On essaie de travailler le maximum de nos parcelles et des parcelles où on intervient avec les chevaux, même si c'est compliqué. Donc on a impliqué d'autres copains qui ont aussi des animaux avec lesquels ils travaillent. Et parfois on arrive à être 7, 8 sur un chantier pour une intervention. Là, il y a vraiment une dynamique qui est très intéressante et en plus qui est très motivante. Donc on a la capacité aussi de formation pour des jeunes. Jusqu'à présent, on les formait surtout en... regard forestier et abattage, donc bûcheronnage, que ce soit à la main, donc à la hache ou à la loupe ou à la tronçonneuse. Et là, on a pu rajouter le volet débardage à traction animale. Donc un regard vraiment très intéressant en forêt et impact écologique vraiment réduit. Et bon, on commence à vraiment apprécier nous-mêmes d'ailleurs le travail qu'on fait parce qu'il il commence à être vraiment en harmonie, quoi. C'est très rigolo parce que le côté social du travail comme ça en forêt, avec les machines, il existe moins facilement. Ne serait-ce parce que c'est dangereux, c'est bruyant, c'est particulier. Mais le travail, le même travail avec des animaux est complètement fédérateur. Donc, de fait, quoi, on a même des fois des enfants avec nous, et effectivement, on embarque tout le monde. Les filles d'ici gèrent, c'est elles qui gèrent toute la partie, donc travaillent avec les chevaux, qui font le débardage, qui font tous les travaux agricoles sur la ferme avec, et plus les collègues qui viennent. C'est vrai que ça, c'est un côté super intéressant, c'est que ça recollectivise les gens, les groupes. C'est un point très très important là-dedans, quoi. Ça crée un lien entre les gens. On se retrouve dans une ambiance où on est tous à égalité. Il n'y a pas un qui maîtrise plus que l'autre. Même le jeune qui débarque et qui est en apprentissage se sent à l'aise, parce qu'il n'y a pas cette violence qu'on peut avoir avec les outils trop mécanisés, quoi. Tout en sachant qu'on continue quand même avec des outils mécanisés quand les contraintes nous y obligent, parce qu'on n'est pas encore complètement au point sur tout. Et en plus, on ne veut pas aller abîmer des animaux alors qu'on n'est pas sûr de maîtriser les actions qu'il faut faire. Bon, maintenant que Florence est de plus en plus mêlée à ce qu'on fait, qu'il s'investit avec nous, on commence à vraiment arriver à plus avoir de barrage dans l'évolution du travail, quoi, parce que il a une qualité, une finesse de travail qui permettent d'accéder à n'importe quel massif, donc c'est beaucoup moins de soucis. Après, sur l'histoire de la charpente que tu parlais, effectivement, on a fait beaucoup de charpente où on exporte notre métier à droite à gauche, souvent dans des plans solidaires ou dans des plans lucratifs. On a réussi jusqu'à présent à mélanger, on va dire, nos amis, nos familles dans ce qu'on faisait, c'est-à-dire que quand on partait, ou bien on partait à un temps limité, en sachant que tout le groupe derrière nous soutenait, donc il n'y avait pas trop de soucis. Après, dans la manière d'avancer sur nos chantiers aussi de charpente, on arrivait à mêler les enfants, à mêler nos copines, les copains et tout, pour venir que ce soit pas trop professionnalisé. C'est-à-dire, nous, on faisait quand même les tracés, certains assemblages un peu compliqués, les poses trop délicates. Et au moment de la pose d'isolation, parce qu'on fait surtout de l'isolation à base de chanvre et chaux et produits assez écologiques, là, il y a besoin de main-d'œuvre, il y a besoin de gens, tout le monde est capable de faire ça. Donc là, on invitait toute la bande et on faisait souvent des chantiers comme ça, de manière plus collective, quoi. Mais c'est vrai qu'un chantier de charpente, on va dire lucratif, c'est nettement moins intéressant de faire collectivement qu'un travail forestier.
C'était donc Lolo de l'équipe de Trenas, ferme de Longomaille sur la commune de Chanillac en Ardèche. Écoutons maintenant Emmanuel qui explique comment elle a commencé à travailler avec des chevaux.
Au début, on a commencé à travailler au jardin et dans l'agriculture avec Sabine, il faut dire on était deux. Bah, c'était l'envie de travailler autrement les terres déjà au début. Et puis, d'apprendre quelque chose. Hein. On avait un cheval, on s'est dit et voilà, il faut faire quelque chose avec. En fait, on a remarqué que le cheval, c'était quelque chose de rassembleur. Que dès que tu enlèves les machines et que tu le remplaces par un cheval, eh ben, t'es déjà plus nombreux. Et puis, je sais pas, ça a une certaine attraction. Ça rassemble les gens. Donc on s'est dit, ben, on aimerait bien travailler en forêt avec les gars, surtout qu'on avait l'impression d'être dans des voies de plus en plus séparées. Finalement, eux travaillaient la forêt, il y avait les tronçonneuses, et c'est quand même quelque chose de lourd. Il y avait le tracteur. Des choses comme ça qu'on ne se sentait pas d'aborder et on était très frustrés de ne pas pouvoir participer à tout ce travail-là. Et peut-être aussi qu'on avait un peu une vision plus douce de ce qui pouvait être un travail en forêt, je pense. Parce que c'est vrai que toutes ces machines en forêt, des fois, c'est... Je sais pas comment dire, c'est pas vraiment l'image qu'on se fait de la forêt. Voilà, je sais pas si c'est féminin comme approche, mais disons, nous on aime aller en forêt, on va chercher les champignons, les fraises des bois et les framboises. Bon, je caricature un peu, mais... C'est vrai qu'on se sentait pas à l'aise au milieu de ça. Et un jour, on a un copain qui nous a appelé en disant qu'il y avait un débardeur. Enfin, le parc de l'Ardèche organisait un stage avec un débardeur à cheval et il nous a dit bah, « allez-y ». Et nous, ça nous a branchés. Et puis ce qui était bien, c'est que ça a branché les gars aussi. Ils ont dit « putain, c'est bien, faites-le, comme ça, voilà, on pourra partager quelque chose ». Donc on y est allé et puis c'est comme ça qu'on a rencontré Florent. Et... Ce qui est impressionnant avec ce gars, c'est qu'il a une manière de travailler avec les chevaux où malgré que ça soit très exigeant, ça demande vraiment de prendre sur soi, d'apprendre, d'être présent. Enfin, c'est quelque chose, quoi. Ça paraît à la fois aussi simple. C'est difficile à expliquer, mais tu te dis, je vais y arriver. Quand j'ai vu ce mec travailler, je me suis dit, mais moi aussi, je peux y arriver.
Beaucoup de gens, ils ont dit qu'il est très doux, quoi, avec les bêtes. Il y a une sorte de relation, une tranquillité, même si c'est un travail très dur, mais je sais pas.
Il n'y a pas que la douceur, il y a un respect de l'animal. Bon, on demande quelque chose à l'animal qui n'est pas obligatoirement, qui va pas obligatoirement dans son naturel, hein, l'animal. Bon. Mais en même temps, moi, ce qui m'impressionne, c'est que quand je vois ces bêtes à Florence, c'est des bêtes intelligentes, c'est des bêtes qui connaissent leur boulot. Et quand ils leur demandent quelque chose, elles sont là, elles sont présentes, elles sont concentrées. Et c'est vrai que ça te donne une autre relation à l'animal, parce que, en fait, tu travailles avec elles presque à part égale, tu les mènes, mais elles savent leur boulot, elles le font. Ouais, c'est difficile à exprimer, mais ça donne un rapport qui est complètement différent. Si tu prends pas un tracteur, quoi, c'est... Ouais, je sais pas vraiment mettre les mots dessus, mais c'est vrai que c'est un respect qui va après avec la forêt dans laquelle tu es. C'est un respect qui va dans la terre, quand tu laboures, quand tu verses ou des choses comme ça. C'est un ressenti, c'est difficile à expliquer. Mais j'ai même pu observer les bêtes quand elles travaillent avec nous, même au labour, mais il y en a qui aiment ça. Elles prennent plaisir à le faire avec toi. C'est un plaisir que tu partages aussi.
J'aimerais quand même comprendre un peu le début de ta relation avec les chevaux. Comment tu as appris ça, en fait, au début ?
Moi, j'avoue, au début, j'avais peur. Il faut demander à Sabine. J'avais une trouille bleue. Quand j'allais chercher un cheval, je le tenais à distance. J'étais très, très maladroite. Et puis, c'est au fur et à mesure... Bon, je ne l'ai pas fait seule. Hein. Je l'ai fait avec Sabine. Elle m'a montré ce qu'elle savait, elle. C'est la relation qu'elle avait, elle, avec les chevaux. Et puis, c'est venu tout doucement. C'est une cohabitation aussi. C'est une relation qui se crée au fur et à mesure. Je répète, c'est pas un tracteur qu'on prend. C'est tout doucement, on fait les choses ensemble, quoi. Je pense que quand tu te mets dans l'optique que tu fais le boulot avec le cheval, tu as déjà fait un grand pas.
Dans un jardin, en général, c'est relativement plat. Moi, les endroits où je suis allé, où vous avez bossé ensemble, c'est des terrains difficiles, quoi. C'est très en pente. Ça doit être quand même pas évident, toujours, non ? De pouvoir sortir du bois dans des zones très accidentées, avec parfois même des terrasses ou des murs, etc. Quoi.
Bah, c'est technique. Je pense que c'est un apprentissage comme un autre. Il y a des choses qu'il faut respecter, et c'est des choses qu'on apprend. Je ne vais pas faire un cours de débardage, mais on a quand même commencé avec des choses plus simples, il faut le dire. Et puis ensuite, c'est vrai que d'avoir rencontré Florence, ça nous a donné une autre attitude derrière le cheval, un autre regard. Il nous a appris à nous mettre en sécurité, à mettre le cheval en sécurité. Enfin, c'est comme n'importe quel apprentissage, c'est quelque chose qui s'apprend. Je pense qu'il ne faut pas dire « je vais prendre un cheval en disant « je vais débarder, ça va se faire tout seul », non. C'est des choses qu'on apprend. C'est très technique.
Dans la forêt, en fait, finalement, quand même, vous êtes parfois assez nombreux. Et parfois, je crois qu'il y a les enfants qui peuvent venir aussi. C'est aussi, comme tu disais avant, quelque chose qui est bien plus imaginable avec un cheval que bon, voilà, les tracteurs et compagnie.
Je crois que c'est pour ça qu'on a pris plaisir au travail en forêt ensemble les derniers temps. C'est que tout le monde peut y être. On travaille ensemble, le bûcheron travaille avec le débardeur, c'est un travail collectif, c'est pas chacun dans son coin à faire sa petite histoire. Et c'est vrai qu'on a transformé ça, en plus en emmenant les enfants, en les intégrant, c'est un grand mot, non, en les embarquant avec nous. Et moi j'ai des souvenirs assez rigolos où Pierrot, mon fils, à 2 ans, eh ben, il était avec nous en forêt, puis des fois je le retrouvais endormi sur un gros tas de branches, tu vois. Mais c'était la vie, quoi. C'est quelque chose de plus global, de plus tranquille que chacun qui va faire son petit boulot. Voilà, c'est un travail d'équipe. Moi, c'est ça qui me plaît dans la forêt et ce qui plaît à tout le monde. Parce que je vois un gars comme Florent, eh ben, c'est ça qui lui plaît aussi, c'est ce travail d'équipe. Tu es toujours en train de rencontrer des gens, de partager, d'échanger.
Maintenant, il y a quelque chose qui continue dans la durée, il semble-t-il, maintenant, avec un certain nombre d'amis que vous avez ici à Trénas. Bon, moi, j'ai déjà parlé un peu avec Gérald et avec Florent, mais donc d'imaginer peut-être un avenir dans le travail forestier avec vraiment un partenariat presque ou un travail ensemble avec des amis comme ça.
Bah oui, c'est plus drôle. Enfin, je sais pas quoi dire là, mais je veux dire, c'est même comme le travail agricole avec les chevaux. Nous, on a remarqué, à partir du moment où on a mis les chevaux, eh ben, tout le groupe s'est intéressé au travail de la terre ici, mais aussi parce qu'on en a besoin. Et finalement, eh ben, on s'est retrouvés dans les champs à être 5, 6, à regarder le labour, comment il était, et ainsi de suite. Et après, il faut mettre au point le semoir, donc réflexion comment on va le mettre au point pour les chevaux. Et puis, tu as tout le monde qui vient voir comment ça marche et tout ça. Et puis, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, eh ben, tout le monde s'est remis dans les champs. Et ouais, j'ai senti ça aussi pour la forêt, tout le monde... Il est allé différemment. Et puis oui, la forêt, elle a quelque chose de vachement apaisant. Moi, j'avoue, honnêtement, si je suivais mon instinct personnel, j'irais en forêt avec des bûcherons qui coupent à la hache et la loupe. On couperait certainement moins de bois. On réfléchirait peut-être encore plus pourquoi on coupe cet arbre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que sinon, ça peut devenir en soi un fonctionnement. On prend des chantiers... Tu coupes du bois et c'est, voilà. C'est pas non plus le but de... Enfin, pour moi, c'est pas un but en soi d'aller abattre des arbres et les débarder, quoi. Il faut faire attention. Mais ouais, moi, si je suivais mon instinct, c'est comme ça que j'irais bosser, quoi.
En même temps, maintenant, j'imagine, hein, tu découvres tout un monde, tout d'un coup, qui est la forêt. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à apprendre. Enfin, déjà, les différentes essences, comment faire. Parce que tu es là avec le cheval, peut-être, mais en même temps, il y a souvent les questions. Ben voilà, est-ce qu'on va couper tel arbre ou est-ce que... Beaucoup de questions.
Bien sûr, oui. Comment t'interviens, tu regardes ensemble. Bon, après, on n'est pas toujours d'accord, mais... ouais, le rythme que tu te donnes, les techniques que t'emploies, oui, il y a tout ça. C'est vrai que moi, j'ai découvert la forêt, c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout. Les essences, l'ombre, de lumière, les plantes qu'il y a en dessous, enfin, c'est tout un monde, oui, c'est tout un monde.
De passer un week-end donc, avec des gens qui sont venus de différents coins du sud de la France, en partie tu connais comme Pascal, mais, et d'autres, voilà, on découvre beaucoup de questionnements et la recherche d'autres façons d'agir dans la forêt. Est-ce que tu crois que maintenant il y a vraiment des perspectives de bosser avec plus de monde, un peu à droite à gauche, pour que ce genre de démarche devienne un peu plus répandue, quoi?
Les travaux, disons, assez écolos en forêt, il n'y a pas 36 débouchés, il y a le débouché écolo national, c'est-à-dire entretien des bancs de rivière, parcs proches des villes ou endroits de visite périurbaines très fragiles. Bon, je pense à quelques chantiers sur Privas, qui est la préfecture de l'Ardèche, nous propose d'intervenir sur une parcelle de Pinlaricio très très vieux, c'est bon, un travail intéressant. Il y a un déblocage financier énorme pour financer toute une équipe de travailleurs avec des chevaux, avec un impact écologique minimum. Et en plus, ça, c'est un problème, quoi. Ça se discute, pourquoi tant d'argent pour un petit endroit où les gens vont se promener, alors qu'il y a des massifs entiers qui sont massacrés. Est-ce qu'on tombe dans ce panneau? Est-ce que c'est difficile de pas... C'est une discussion intéressante qu'il faut mener. Et justement, quand on fait des rencontres comme ça, ça permet de peut-être un peu mieux savoir dans quel sens on va. Est-ce qu'on cherche toujours les bons plans comme ça? Et enfin, je dis les bons plans, les plans... financier, ou alors est-ce qu'on cherche des propriétaires ou d'autres exploitants, parce qu'on peut faire de la prestation de service uniquement même pour des exploitants. Ce qu'on cherche plutôt ces gens-là qui ont des chantiers moins intéressants financièrement, mais en tout cas qui ont un intérêt dans le mental, dans la représentativité extérieure bien plus important. Alors, on a eu des gens qui avaient des terrains qui sont assez aisés, qui avaient des gens assez, assez riches, qui nous ont proposé des exploitations sur des parcelles d'allant des fois 10 hectares d'un coup, de nettoyage, du travail très très fin sur des parcelles uniquement vouées à des coupes rases pour le bois de chauffage, donc sans avenir ni rien. Et par plein de rencontres, on a fini par par intervenir dans des parcelles comme ça. Et, bon, évidemment, moi j'espère que ça continue, mais on est quand même souvent confronté au problème que c'est les gens qui ont de l'argent qui arrivent à nous faire des travaux super intéressants. Donc, pour l'instant, on en est là. On bosse pour des gens qui ont souvent pas mal de fric. Ils nous permettent après de faire des chantiers, des fois à perte, chez des gens qui n'ont pas d'argent. Ou sur des forêts qui sont vraiment complètement pas rentables du tout par rapport à ce qu'on fait. Alors j'espère effectivement qu'avec ces rencontres, avec ces croisements, ces brassages de gens, on arrive à recréer une dynamique, à recréer des filières bois à plus grande échelle de ce qu'on fait nous. Parce que on est une dizaine d'adultes, mais on fournit des constructions pour l'Angomaï, pas mal pour les gens extérieurs. On motive beaucoup de jeunes dans l'envie de faire des choses un peu similaires à ce qu'on fait. Bon, c'est un fait, hein, c'est pas du tout négatif. Mais ensuite, quand on regarde la réalité, autour de nous, c'est que des exploitations brutales, à base de coupes rases, gros tracteurs et compagnie, beaucoup de bois exporté, on ne sait où. Il y a quand même une sacrée remise en question dans le monde forestier autour de nous, enfin en tout cas même au niveau national ou européen. Et bon, est-ce que nous, avec nos petits chevaux au milieu, est-ce qu'on n'est pas un peu parfois des pantins qui donnons bonne conscience aux quelques mondes écolos au milieu? C'est la discussion, on est toujours dans ce débat-là. Personnellement, c'est vrai que moi j'ai toujours du mal à travailler pour les gens qui peuvent se le permettre parce qu'ils ont les moyens de se permettre et qu'au fond, c'est peut-être pas vraiment un état d'esprit. Ils le font parce que c'est un peu la mode aussi. Bon, moi je ne suis pas dans une déprime du tout. Hein. Je suis toujours de bonne humeur et j'ai toujours envie de foncer et ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que comment faire pour survivre, pour vivre de manière correcte, parce qu'on a des prix quand même très élevés dans nos prestations, comment vivre sans travailler que pour les bourges, que pour les bourgeois. C'est le même débat que par rapport au bio. Où la nourriture bio, c'est très bien, c'est nécessaire pour sauver la planète, certainement. Mais si c'est industriel, c'est pas intéressant. Si c'est que les riches qui peuvent se permettre, c'est pas intéressant. Il y a tout un débat philosophique aussi qui se raccroche à cette manière de travailler ou de vivre.
Pendant cette réunion, on a beaucoup parlé de culture du bois. Et c'est très technique, en fait. Pour moi, c'est trop technique. Voilà, moi, j'ai plus une approche humaine dans cette démarche-là. Comment les gens peuvent vivre d'une manière plus réactive, en profitant, parce qu'on profite quand même tout ce qu'on a autour de nous, que ce soit la terre, la forêt, on arrive à en vivre.
Peut-être c'est aussi assez sain que ce n'est pas uniquement de la forêt qu'on doit trouver son revenu ou sa survie, quoi. Voilà. Que en fait, vous ici, vous avez un jardin, il y a du lait, du fromage, enfin, voilà. Il y a plein de choses, donc on n'est pas obligé de abattre des arbres pour jusqu'au bout pour vivre, en fait c'est qu'une partie de ce qu'on a besoin.
Voilà, moi je le vois plus dans un ensemble au niveau d'un groupe. Après pour ce qui est de répondre à des demandes à l'heure actuelle de gens qui aimeraient que leur travail soit travaillé différemment, qu'il y a un autre regard sur l'exploitation forestière, parce qu'il ne faut pas le nier, il y a quand même des problèmes. En ce moment, on est en train de transformer la forêt en carré de choux et à moyen terme, ça va devenir complètement catastrophique au niveau des terres, mais même au niveau de la culture, je pense, de l'imaginaire des gens. Donc, c'est vrai que là, tu réfléchis à trouver une dynamique avec des copains pour apporter une autre vision de la vie. Voilà, et je pense que nous, quand on se déplace et qu'on va travailler chez des gens, il y a le boulot, mais il y a aussi la relation humaine où on essaye d'apporter tout l'imaginaire qu'on a par rapport à notre travail. Et je crois que c'est ça qui est important pour nous. Il y a du sens dans ce qu'on fait. Et d'essayer de le faire partager à d'autres gens pour qu'ils retrouvent un peu du sens. Parce qu'on est dans une époque où l'économique a pris de telles proportions qu'on n'arrive plus à réfléchir différemment dans la relation humaine, dans l'échange des savoir-faire, qui, je pense, est une véritable richesse de partager tout ça, puis ce regard sur notre environnement, sur la nature, sur toute cette énergie qui est là, qu'on ne voit plus, qu'on ne ressent plus.
C'était chez les paysans forestiers de Trénas, la troisième de la série d'émissions Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Dans la prochaine émission, nous parlerons avec Florent Dalloz, débardeur à cheval, et Gérald Houlan, élagueur, sur leur travail. Pour tout renseignement sur le réseau pour les alternatives forestières, contactez son coordinateur Gaëtan Dubus au domaine du Chalet, route de Chalabre, 11300 Limoux, ou par courrier électronique gdubus, donc G-D-U-B-U-S dans un seul mot, @gestion-forestière-sud.com. Vous pouvez également consulter la page forêt sur le site internet de l'association Reliés, www.reliés.info.